Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio aujourd'hui Marine Parmentier. Bonjour.
Bonjour Yves.
Marine Parmentier, vous êtes ici pour nous annoncer votre activité qui s'intitule d'ailleurs Mirtz Yoga. Et ça consiste donc à plusieurs propositions, dont celle de la pratique du yoga. Et également, vous tirez les cartes avec le tarot. Et quelles sont les autres activités aussi liées au physique ?
Alors, Mirtz Yoga, c'est un projet qui fête ses 10 ans cette année, qui à la base était le nom de mon projet autour des cours de yoga. Tout simplement, il y a 10 ans, j'ai commencé à enseigner le Arunbi Yoga, donc dont on va parler ce matin, et aussi une pratique plus traditionnelle de Hatha Yoga, des ateliers de yoga. Et puis, quelques temps après, j'ai ouvert une première école à Paris qui s'appelait Mirtz Yoga. Donc, d'autres personnes ont rejoint l'aventure. Une quinzaine de professeurs enseignaient chez Mirtz Yoga. Et donc, Mirtz, c'est ce projet hybride, en fait, qui se transforme au fur et à mesure des années et des contraintes aussi. Notamment après le Covid, où ça a été du coup plus compliqué de maintenir le studio. Mais le projet Mirtz en tant que tel continue d'exister à travers des cours, des ateliers, des retraites, des bains sonores en musique et puis aussi autour du tarot. J'appelle ça un petit laboratoire protéiforme d'expérimentation de la conscience par différents moyens, en fait, différents outils qu'on utilise pour élargir les champs de conscience.
Le yoga, pour vous, cette rencontre remonte à combien de temps et comment se sont croisés vos chemins là-dessus ?
J'ai découvert le yoga en 2008. J'avais beaucoup de problèmes de ventre. J'avais très, très mal au ventre, très souvent. Et j'avais pas vraiment de réponse côté médecine classique, en fait. Et une amie qui souffrait de problèmes de dos m'a emmenée dans son cours qu'elle faisait tous les dimanches. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a été une des premières fois où j'ai pu sentir que j'étais en contact avec mon corps, vraiment, et mes sensations. Donc, c'est ces douleurs de ventre qui m'ont amenée à découvrir la pratique. Et puis, ça m'a fait tellement de bien que quelques années après, j'ai décidé de me former comme professeur de yoga.
Ces douleurs ont disparu, justement, avec cette pratique ?
Alors, elles se sont considérablement améliorées. Maintenant, mes douleurs de ventre, ça reste mon baromètre quand je suis pas dans mon assiette. En général, c'est le ventre qui prend en premier. Donc, j'ai appris à les écouter. Et oui, je suis moins embêtée qu'avant, beaucoup moins.
Et alors, comment vous avez vu l'idée ? Vous avez parlé d'une amie qui pratiquait, qui vous a mis la puce à l'oreille. Et comment s'est établi ce contact avec cette discipline ? Et qu'est-ce qui vous a ensuite éveillé cette envie de transmettre ?
Ce premier contact, ça a été ce cours auquel j'assistais tous les dimanches soirs, en fait, en fin de week-end, souvent là où on peut avoir un peu le blues avant le tunnel de la semaine qui recommence. Et c'était un cours très doux, au sol uniquement, dans des postures allongées et assises. Et comme je disais, c'est vraiment la première fois où j'ai senti qu'il y avait un dialogue qui opérait avec mon corps et que je pouvais vraiment trouver un soulagement physique, en fait, par le mouvement, par la respiration. Et c'est vrai que ça m'a fait tellement de bien que j'ai eu envie d'en savoir plus, en fait, sur la pratique, sur l'anatomie, aussi sur l'histoire, la mythologie autour du yoga. Donc c'est comme ça que j'ai décidé d'aller me former en Inde pour essayer d'en savoir plus sur cette pratique.
Par rapport à cette pratique du yoga, est-ce que vous aviez aussi des prédispositions pour le pratiquer ? Est-ce qu'il y a un certain impératif d'ordre physique pour pouvoir pratiquer le yoga ? Comment ça se produit ?
Alors, il n'y a pas de prérequis, justement. C'est ce qui me plaît dans le yoga, c'est que tout le monde peut y trouver quelque chose pour se faire du bien. Après, il y a différentes sortes de yoga, différents styles, différentes pratiques qui sont adaptées en fonction des besoins physiques de chacune et de chacun. Et j'avais pas forcément de prédisposition. Je suis pas très souple de nature. Je sais toujours pas faire de grands écarts, par exemple.
Ce n'est pas nécessaire.
Ce n'est pas nécessaire du tout. mais c'est avant tout, voilà, une envie de se sentir bien, en fait, de trouver une pratique dans laquelle on peut se faire du bien.
Vous avez créé ces cours en 2014, donc à Paris, hein, comme vous le disiez, dans le 19e arrondissement, jusqu'à 2021, et consécutivement au Covid, vous avez cessé cette activité. Ceci dit, à Paris, vous avez pu établir de nombreux contacts et aussi opérer auprès d'autres partenaires ou d'autres structures.
Effectivement, le premier studio, je l'ai ouvert en 2014. Et puis, 3 ans après, j'en ai ouvert un petit peu plus grand parce qu'on était à l'étroit dans ce premier petit studio. Et c'est une activité qui marchait bien. C'était un studio de quartier, donc il y avait une vraie communauté qui venait pratiquer tous les jours et faire des ateliers le week-end. On avait pas mal de monde qui venait nous voir et pratiquer surtout différents styles de yoga, de différents types de méditation aussi. Donc on avait vraiment une palette large de portes d'entrée accessibles en fait à cette pratique-là, en fonction du vécu de chaque personne, des besoins physiques.
À ce départ de Paris, vous vous êtes installé à Die et ça s'intitule Mirz. Est-ce qu'on peut peut-être définir ce nom ?
Alors Mirz, c'est un surnom que me donnait ma mère quand j'étais enfant, qui est vraiment un mot inventé, un surnom complètement inventé et que j'aimais bien parce que ça parle de moi et puis de quelque chose qui me tient à cœur. Et puis je trouvais que ça avait une connotation un peu cosmique, donc pour ce projet autour de la conscience, ça me paraissait... juste.
Donc, vous vous installez à Die et vous proposez des cours hebdomadaires à l'avant-poste. L'avant-poste, c'est un endroit que vous connaissiez auparavant ?
Je suis venue plusieurs fois à Die, évidemment, avant de m'installer ici. Et j'avais découvert le lieu et puis le projet global en fait, qu'ils proposent. Et j'aimais beaucoup le lieu. En fait. Quand j'ai visité la salle au deuxième étage pour la pratique, j'ai tout de suite senti qu'il y avait une bonne énergie pour pratiquer là-haut.
Alors, vous proposez Mirz comme étant un petit laboratoire protéiforme d'expérimentation de la conscience par le yoga. Il y a aussi la méditation, le tarot, les sound baths, ça nous en parlerait, et les ateliers et les retraites. Donc, on va peut-être développer un peu tous ces propos. Et donc, un laboratoire protéiforme, qu'est-ce qu'on peut y trouver donc, dans ce composant ?
Justement, des différentes pratiques, en fait, différentes expériences qui permettent à la fois d'être ensemble et puis d'être aussi bien avec soi-même. Quoi. C'est surtout des expériences pour se faire du bien et se faire du bien à la tête et au corps et du coup avoir une tête, garder une tête fraîche et dispo pour réfléchir à comment être mieux dans le collectif aussi. Et protéiforme dans le sens où, comme je disais, c'est un projet qui a vraiment évolué au fil des années. C'était un projet solo et puis après, il s'est ouvert avec d'autres personnes qui ont rejoint l'aventure, qui s'est un petit peu rétréci après le Covid. Mais il y a beaucoup de collaborations. En fait, les bains sonores, les sound baths sont des expériences de méditation sonore. Et je travaille soit avec des musiciens sur des sessions acoustiques, soit en ambiante, en musique électronique. Et les gens sont allongés au sol, hyper confort, avec des couvertures, des coussins sur des tapis, et sont baignés en fait par le son des lives en fait des musiciens. Et par exemple, l'expérience du bain sonore, ça plaît à des gens, pas mal de monde, mais aussi à des personnes qui sont un peu flippées de l'expérience de méditation ou de yoga, qui peut faire peur un peu aux gens parfois. Et là, je trouve que la musique et le son sont toujours une belle porte d'entrée assez facile pour que les gens puissent se détendre.
Vous disiez que ce laboratoire protéiforme s'est nourri aussi de ses partenaires, de ces personnes avec qui vous avez pratiqué ou enseigné. En quoi ça a nourri votre science, en quelque sorte ?
Ça me permet de découvrir de nouvelles disciplines, de nouveaux outils, de nouveaux points de vue aussi, de nouvelles façons de faire. Je considère qu'il n'y a pas un yoga ou une forme de méditation, mais qu'il y a, il y a, Il y a vraiment plein de façons d'y accéder. En fait, il y a des personnes pour qui la clé d'entrée, ça va être un aspect très physique des choses, qui vont avoir besoin de se dépenser physiquement pour contacter un certain état de relâchement, de conscience. D'autres pour qui ça va être plutôt par l'entrée philosophique, on va dire, ou mystique, voilà, par le son. Et ce projet mien, ça a toujours été ça, en fait, c'est de dire que chaque clé d'entrée est valable, en fait, du moment qu'on respecte le parcours et les besoins et les envies des personnes, en fait.
Est-ce qu'on peut parler de syncrétisme, en quelque sorte, aussi ?
Oui, bah, le yoga, de toute façon, est un mélange de beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, le yoga contemporain, comme on le connaît, est le fruit de beaucoup de mélanges et d'allers-retours entre notamment l'Inde et les États-Unis. Enfin, il y a eu tout un mouvement.
Alors, il y a plusieurs niveaux, hein, au niveau de la discipline du yoga. Enfin, au niveau du yoga, il y a plusieurs niveaux d'intensité. La vôtre, peut-on considérer à quel niveau ?
Alors, le cours que je vais commencer à enseigner à l'avant-poste, donc ce cours de R&B Yoga est un cours qui se veut multi-intensité, c'est-à-dire qu'en une heure, j'essaye de proposer à la fois du dynamisme, quoi, qu'on sente que le corps est bien bougé, qu'on se soit vraiment activé, mais sans aller dans des postures très avancées, en fait. On n'a pas besoin de faire des choses de dingue, se mettre sur la tête ou quoi, pour sentir que déjà on s'est fait du bien. Et la deuxième partie du cours est très, très relaxe au sol. Donc j'essaye, en tout cas dans mes cours, de toujours avoir une intensité complémentaire.
Un peu crescendo ?
Oui, crescendo et décrescendo. Il y a vraiment une montée et une redescente jusqu'à la fin où on est prêt à aller se coucher après, normalement, à 20h30 quand on sort du cours.
Et je voulais savoir, cela se passe dans un local, hein, mais est-ce que pour vous, l'idéal aussi serait de temps en temps une pratique en plein air ?
Oui, bah notamment quand j'organise des retraites, qui sont toujours des retraites dans des belles natures. Quand le temps s'y prête, on est dehors. Après, pour le R&B yoga, moins, parce que voilà, il faut quand même une bonne sono pour que ça fonctionne.
Il faut pas déranger les animaux.
Voilà, exactement. On a le bruit de la nature et les sons pour nous bercer.
Il y a une école particulière qui vous a instruit au niveau du yoga ?
Je suis plutôt une disciple du Hatha Yoga, donc le yoga assez classique, assez traditionnel, qui n'est pas tellement un yoga en mouvement, mais que j'ai agrémenté d'enchaînements plus fluides au fur et à mesure de ma pratique. Et puis je suis formée aussi en Katona Yoga, qui est une espèce de calque un petit peu qu'on met sur la pratique classique, qui donne plein de métaphores, d'images hyper parlantes, en fait, pour comprendre comment le corps se place dans les postures, qui est un système aussi de méditation un peu original. Et puis je pratique l'Iyengar aussi, qui est une pratique basée sur les alignements assez précis du corps.
Alors, il y a ces ateliers qui seront proposés à peu près à quelle fréquence ?
Alors, le cours de R&B Yoga, tous les lundis, de 19h30 à 20h30. Donc, c'est un cours d'une heure à l'avant-poste. Et puis, voilà, je commence avec ce cours qui est un peu mon cours signature chez Mienz. Et puis, peut-être après, proposer voilà, d'autres pratiques, peut-être un peu plus classiques de Hatha, peut-être des ateliers. Je commence à discuter avec des personnes ici pour organiser des sound baths, des bains sonores aussi d'ambiance et peut-être d'acoustique.
À quelle heure c'est le lundi ?
C'est 19h30.
D'accord. Il y a cette prise de conscience. Alors, la conscience par le yoga, en quoi consiste-t-elle ?
Alors, pour moi, parce que je pense qu'il y a plein de définitions possibles, mais ça passe avant tout par le corps. J'ai la sensation que quand le corps est bien, enfin, quand je me sens bien dans mon corps, c'est qu'en général, je suis au bon endroit et dans de bonnes dispositions.
Justement, quand le corps est bien, on ne le sent pas ?
Si, je le sens. Si. Ouais, si, je le sens bien même.
D'accord. Ouais, je pensais que c'est la douleur qui nous réveille cette présence.
Non, il y a une forme de douceur, presque d'onctuosité aussi, je trouve, à être bien dans le corps, quand on y prête attention en tout cas. C'est un exercice à faire régulièrement, quoi, essayer d'être en contact justement avec ce qu'on sent.
Avant de continuer sur le yoga, on va parcourir rapidement les autres propositions. Donc, il y a la méditation. Cela consiste un peu, ce que vous disiez, peut-être avec un apport musical, ou alors le silence aussi est présent.
Oui, j'utilise plusieurs techniques de méditation. En réalité, la méditation est un état, en fait. C'est un peu comme le sommeil, on ne décide pas d'être en méditation. C'est comme s'endormir, ça vient au bon moment. Donc tout ce qu'on peut proposer, en fait, sont des outils pour aller vers la méditation.
Et puis, il y a le tarot. Alors, le tarot, c'est pour ça, vous proposez plusieurs méthodes, le tirage en croix ou alors le tirage de la roue. Déjà, pour vous, le tarot, qu'est-ce que ça représente? Et puis, de nous peut-être développer ces deux propositions.
Alors, j'utilise le tarot comme un autre outil complémentaire aussi de la pratique du yoga. Le tarot, pour moi, c'est un outil de conversation. Soit quand je le fais avec d'autres personnes, c'est un outil de conversation avec l'autre. Soit quand c'est des tirages solo, c'est un outil de conversation avec moi-même. Donc je ne prétends pas lire l'avenir dans les cartes. Ça ouvre en fait un dialogue et c'est un support pour nourrir une discussion en fait sur un petit peu où on en est en ce moment, qu'est-ce qui bloque. Ça permet de faire un pas de côté sur notre réalité pour avoir de nouvelles idées, offrir de nouvelles perspectives sur un sujet en particulier.
En fait, vous conjuguez le yoga et le tarot dans vos activités aussi?
Alors, à titre personnel, oui, j'utilise le tarot comme un peu comme une carte de navigation, quand j'en ai besoin en tout cas, quand j'ai des questions un peu plus présentes dans ma tête. Les cartes peuvent m'aider. Et dans mes activités que j'offre aux autres, oui, le tarot en fait partie aussi. Après, c'est moins régulier, en fait. C'est quand on me demande une séance. Mais j'ai organisé par le passé pas mal de formations aussi sur les cartes. Comment utiliser le jeu, des ateliers autour du tarot. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais aussi pouvoir peut-être proposer ici.
Et puis, le yoga, enfin, le tarot, vous procédez aussi à part. Hein. C'est une activité aussi propre. Ensuite, il y a les sandbaths, le baignage de son. Donc, les bains de son, c'est aussi une activité qui est mêlée avec le yoga également.
Oui, alors parfois, ça va être simplement un bain de son où on va expliquer un petit peu la séance, mais on ne dévoile pas trop le contenu, en fait. Ça reste souvent un voyage de découverte, en fait, puisque chaque personne vit les choses différemment dans le bain sonore. Et parfois, on peut agrémenter ce bain sonore de postures, de yoga ou de mouvements ou de souffle pour aller un petit peu plus loin dans la détente.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Là, vous parliez de yoga R&B. C'est un apport musical. Et R&B, c'est quoi exactement?
Alors, le cours de R&B Yoga, c'est un cours sur du R&B, donc la musique R&B.
C'est du rhythm and blues?
C'est ça.
Voilà.
Je mets pas mal d'ambiance aussi, quand même, dans les séances. En fait, c'est une séance d'une heure. On commence souvent avec un morceau qui est très, très lent, très introspectif. Ça permet aux gens d'atterrir, en fait, de leur journée. Et puis, on monte en intensité. Alors, c'est jamais des sons club, hein, ça reste un son assez lassif, très fluide, très doux. Mais en tout cas, voilà, y a la première partie du cours est assez rythmée pour qu'on bouge bien. La musique est vraiment présente. Et à partir de la deuxième partie du cours, on reste sur ces sons R&B, mais beaucoup, beaucoup plus lents, plus doux pour être au sol.
Pourquoi ce choix du R&B ? Et pas un autre?
Parce que je suis fan de R&B depuis toujours, depuis toute petite. C'est vraiment.
Il y a quelque chose de l'intensité, de l'ordre de l'émotion.
C'est le rythme. En fait, ça m'a toujours vraiment portée. Alors que petite, je comprenais pas l'anglais, par exemple. Il y a d'ailleurs toujours des morceaux que j'écoute et je comprends pas forcément toutes les paroles tout le temps, mais il y a vraiment un rythme qui me parle très fort, ouais. Et je trouve qu'en fait, c'est un. Enfin, comme j'ai une formation qui est traditionnelle de Hatha, y a des jours où j'ai envie de pratiquer en silence et des moments où j'ai envie d'être portée en fait, par le son. Et je trouve que le R&B permet vraiment d'être dans un mouvement hyper fluide, en fait, de bouger sans trop réfléchir. Et le but de ce cours, c'est vraiment de travailler l'intuition du mouvement, quoi. de se faire du bien en bougeant sans trop réfléchir à comment on bouge.
Par rapport à ce que vous proposez, il y a également des ateliers. Alors, les ateliers, vous pourrez peut-être nous préciser de quel type. Et les retraites aussi, quels sont ces procédés ?
Alors, dans les ateliers que j'ai pu proposer par le passé, il y a eu beaucoup d'ateliers autour du ventre, donc yoga du ventre, justement pour... Pour aider les personnes, accompagner les personnes qui ont très mal au ventre. Donc on a des postures spécifiques pour soulager, des mouvements, des techniques de souffle, de relaxation qui aident vraiment. Et puis renforcer aussi cette zone du ventre. Des ateliers autour du tarot, des ateliers autour de techniques de méditation particulières. Les soundbaths font partie des ateliers aussi, la catégorie atelier. Et puis les retraites, en général j'en organise une ou deux par an. Et j'espère pouvoir accueillir mes élèves dans la Drôme, justement, pour une retraite au printemps.
Une retraite, ça consiste en quoi ? Alors, c'est de se mettre un peu à l'écart et de se retrouver entre soi et soi-même ?
Oui, c'est ça, c'est vraiment une bulle à l'écart du quotidien. Le format que je propose, généralement, c'est sur 4 jours. 3 nuits, un long week-end. Et on a une pratique le matin qui est dynamique. Quand on a l'énergie du matin, ensuite on a un bon repas ensemble, qui est un repas végétarien. L'après-midi, les personnes font ce qu'elles veulent. C'est pour ça que c'est chouette d'être dans des beaux coins pour pouvoir aller se baigner, marcher, faire de la rando. Et puis on a une pratique de fin d'après-midi qui est douce, une pratique vraiment de détente, parfois avec du son aussi. Et à nouveau un bon repas le soir et une bonne nuit de sommeil.
Les repas sont préparés par l'équipe, ensemble ?
En général, c'est les personnes des lieux dans lesquels on va.
Ah d'accord, ce sont des lieux d'accueil avec une restauration sur place.
Oui.
D'accord. Et puis, il y avait aussi, j'ai vu ça, vous précisez d'ailleurs dans votre présentation n'avoir aucune tolérance envers certains comportements, le sexisme, le racisme, l'homophobie et bien d'autres. Et pour vous, c'est une expérience qui vous a fait préciser cette exigence ?
Il me semble important de le rappeler partout là où on va, partout là où on est, en fait, que ce sont des attitudes qui ne sont pas tolérables. Et c'est vrai que le yoga peut avoir cette image parfois de personnes blanches, très minces, très valides, en fait, qui peuvent pratiquer. Et ça me tient à cœur de pouvoir montrer que c'est vraiment accessible et ouvert pour chaque personne, en fait.
D'ailleurs, il y a autant de yoga que d'enseignants du yoga.
Tout à fait, oui. Je pense que c'est comme un psy, un prof de yoga. Enfin, je ne dis pas qu'un prof de yoga est un psy, mais en tout cas, il y a autant de façons de faire du yoga que de personnes qui souhaitent le pratiquer, quoi. Il faut essayer plusieurs profs pour trouver chaussure à son pied, comme pour les psys.
Le tarot, alors, il y a deux modes que vous opérez, le tirage en croix et celui du tirage en roue. Vous pourrez préciser peut-être en quoi consiste-t-il ?
Le tirage en croix, c'est un tirage classique pour répondre à une question plus ou moins spécifique ou un champ de la vie sur lequel on se questionne en ce moment. Donc c'est un tirage qui est plus court. Le tirage de la roue, c'est plutôt un tirage qu'on va faire par exemple une fois par an, en début d'année, en fin d'année, à son anniversaire, qui est un genre de bilan en fait sur 12 grands champs de la vie. Et qui est qui donne pas mal d'informations. C'est un tirage qui est plus dense et qui va durer plutôt une heure et demie, quoi.
Comment s'est opérée cette rencontre entre vous et le tarot ?
Alors, ma mère se tirait les cartes quand j'étais enfant, mais elle faisait ça dans son coin et quand je regardais par-dessus son épaule, elle restait très secrète par rapport à ça, mais ça faisait partie de ce qu'il y avait, quoi, autour de moi. Et puis ma grand-mère m'a offert un tarot de Marseille. Et donc j'avais toute cette imagerie dans la tête. Et puis un jour, j'ai eu envie vraiment de creuser, de comprendre ce qu'étaient les cartes, la structure du jeu. Et ce qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier pour mieux comprendre la structure du jeu, c'est le tarot d'une personne qui s'appelle Rachel Ho, qui est californienne et qui a un projet qui s'appelle Small Spells. Et qui a un projet aussi hybride autour du tarot, du tatouage, du dessin. Et donc, c'est avec son jeu, en fait, son tarot, que je tire les cartes.
Pareil, chaque tireur a son tarot, ou alors il y a une règle commune établie?
Il y a des significations de cartes qui existent. Après, il y a une structure du jeu aussi, mais l'interprétation est libre. Et c'est ça aussi qui fait la beauté du tarot, c'est que chaque personne y met de son expérience propre par rapport aux cartes. Et c'est ça qui fait la richesse de la conversation aussi avec le tarot.
Quelle est cette demande de ces personnes vis-à-vis du tarot? En quoi ça leur répond à certaines préoccupations?
Les gens arrivent généralement avec une question, quelque chose qui les taraude en ce moment. Alors ça peut être le cœur, ça peut être le boulot, ça peut être les finances, ça peut être un projet créatif. Et la conversation avec les cartes nous permet de... En fait, je vois le tarot un peu comme une grosse pelote de laine. Et puis on essaye de tirer, de voir où le fil est à tirer en premier pour déplier le reste de la pelote. Et c'est ça que nous permet les cartes, en fait. Et donc les gens arrivent avec une question et on essaye de démêler un petit peu tout le bazar qui est dans la tête quand on est un peu embrumé comme ça avec des questions qui tournent en boucle. Donc c'est faire un pas de côté, en fait, pour désembrumer un peu et y voir avec plus de clarté les réponses. Après, c'est pas moi qui donne les réponses, en fait. Les personnes arrivent avec leur propre réponse en elles, quoi.
Vous indiquez certaines propositions, oui, ou certains résultats. D'ailleurs, cette demande, ces demandes entraient à toutes sortes de questionnements, que ce soit de santé, sociale, d'emploi, de décisions à prendre aussi.
Oui, c'est souvent très lié à l'émotionnel de la personne. C'est ce qu'elle traverse souvent avec le cœur à ce moment-là, quoi. Et parfois, les personnes arrivent avec une question, par exemple, autour du couple. Et en fait, quand on creuse un petit peu avec les cartes, on se rend compte que ça parle plutôt d'une envie de créer un projet, par exemple. Et donc, le tarot permet d'élaguer un petit peu autour des questions pour avoir des réponses plus claires.
En fait, en quelque sorte, tout ce que vous proposez, c'est aussi peut-être une possibilité aux personnes de souffler quelque part.
Oui, c'est vraiment une pause, une bulle pour soi, en fait, dans un quotidien qui est souvent bien rempli. On a peu de moments dans la journée où on peut se poser et juste bouger pour soi et se faire du bien.
Ces séances donc seront données à l'espace de l'avant-poste. Est-ce que vous envisagez peut-être d'autres lieux ou de s'étendre peut-être plus sur le Haut-Diois, par exemple?
Alors, pour l'instant, je découvre la région.
D'accord. Vous êtes arrivé assez récemment.
Je suis arrivé début juin.
Qu'est-ce qui vous a incité à venir particulièrement dans le Diois?
C'est ma cousine qui vit là depuis longtemps et que j'étais venue visiter plusieurs fois et je suis tombée amoureuse d'ici, comme beaucoup de gens, j'imagine.
Oui. Pour préciser un peu ce que vous avez dans les séances, comment prendre contact avec vous et puis de peut-être essayer
Oui, alors on peut réserver en fait sur le site de Mirs Yoga une séance d'essai. Le cours d'essai est à 12 euros et après on peut venir à la carte. On n'est pas obligé de s'engager au trimestre ou à l'année. En fait, je propose soit des séances à l'unité ou des carnets 5, 10 ou 20 cours.
D'ailleurs, le nombre de personnes dans votre atelier sont d'ordre de combien ?
Ça dépend vraiment du monde qui va venir. Mais à Paris, c'était un gros cours où il y avait 25 personnes par soir. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de ce cours, c'est toute l'énergie du groupe, en fait. On était dans une très grande salle qui permettait aussi d'accueillir du monde. Mais il y a vraiment cette idée de pratiquer ensemble et de bouger ensemble.
Il y a des échanges avec les adeptes ensuite, à l'issue de ces séances, pour peut-être aussi vous-même trouver d'autres subtilités dans votre proposition à l'adresse de certaines personnes, par exemple.
Y a souvent des personnes, des élèves, qui restent à la fin du cours pour partager quelque chose qui les a traversés ou poser une question plus d'ordre physique, anatomique, ou sur une chanson. Souvent, à la fin du cours, on me demande quel était tel ou tel morceau. D'ailleurs, je publie mes playlists chaque semaine sur Spotify pour que les personnes puissent les retrouver. Et puis oui, il y a des amitiés qui se sont créées dans les vestiaires du studio Mirz Yoga à l'époque. Il y a aussi des personnes très discrètes qui ont juste envie de rentrer chez elles très vite après le cours et de parler à personne. Ça dépend de l'expérience de chacune et de chacun.
Et puis, je vous avais demandé un extrait musical pour terminer cette émission. Et vous m'avez proposé un choix, alors ?
Oui, je vous ai envoyé 3 morceaux, puisque c'est difficile de choisir un seul morceau pour illustrer la pratique du R&B yoga, mais s'il fallait que j'en choisisse qu'un, je choisirais le titre d'une artiste qui s'appelle La Fonda, un morceau qui s'appelle Daddy, que j'aime beaucoup, que je trouve très puissant et à la fois très doux. Et c'est ce que j'aime à penser de cette pratique du R&B yoga, c'est qu'on peut avoir une intensité douce.
Ce sont des séances de douceur que vous proposez, en somme ?
De forte douceur, de la nuance, ouais, et du contraste entre une intensité et une douceur.
Pour connaître votre activité, vous avez un site internet qui s'intitule mirz-yoga.com, Mirz étant écrit comme M-I-R-Z-6. Et yoga.com, voilà. Et nous allons nous quitter avec ce morceau de La Fonda avec Daddy. Marine Parmentier, je vous remercie.
Merci.
De nous avoir donné un peu de votre temps sur Earth Bois pour nous annoncer ces ateliers.
Merci de m'avoir reçu.
Bonne soirée à vous.
Bonne.
Au revoir.
I took your lips so I can kiss you upside down, upside down. You know, so I can keep you. I have your hair, but I made a wish. The chip on your shoulder will not be mine. Fear, it's the soul, leaves a flavor. You don't know what's left inside. Fear, it's the soul, leaves a flavor. Daddy didn't tell you, he didn't know. Mama couldn't tell you, but it's time to know. Now's the time. Now's the time for you to know. Daddy didn't tell you, he didn't know. Mama couldn't tell you, but it's time to know. My mind.